WTO Kids Promise Down WTO。
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonsoir, vous êtes en direct sur Radio Canu, l'émission d'Attaque, et ce soir nous consacrons cette heure à le nucléaire, au nucléaire plutôt, et nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Monet, qui est le président de Rhône-Alpes sans nucléaire. Bonsoir Patrick.
Bonjour.
Alors, le nucléaire, vaste sujet. Et peut-être que pour lancer un peu cette conversation, ce serait bien de fixer les idées et de nous dire quelle est la part du nucléaire en France pour ce qui concerne l'électricité.
Alors tout à fait, c'est important de situer les éléments. Alors, pour situer, on va situer aussi l'association. Moi je fais partie de l'association Rhône-Alpes sans nucléaire, qui s'est nommée Rhône-Alpes sans nucléaire à partir de 1997, lors de la fermeture du surgénérateur de Crémalville. Avant ça s'appelait Comité Malville, et c'est une association qui a été créée dans les années 70 et qui générait un peu toute la liaison dans tout le Rhône-Alpes des actions contre le nucléaire. Au moment où on a changé de nom, il y a eu aussi la création du réseau Sortir du nucléaire, qui avait un salarié au début en 1997 et qui s'est développé, qui maintenant a son siège aussi à Lyon et qui travaille avec pas mal d'associations en France contre le nucléaire. Donc on se situe bien contre le nucléaire et on va expliquer pourquoi. Donc un état des choses. À l'heure actuelle en France, on a 58 réacteurs normalement en marche qui produisent environ 74% de l'électricité consommée en France, ce qui représente 17% de l'énergie consommée en France. 17% de l'énergie consommée en France. Attention, le nucléaire ne nous sauve pas du pétrole. Le pétrole représente encore pas loin de 75% de l'énergie consommée en France. Il ne faut pas l'oublier, on n'est que dans le secteur de l'électricité. L'électricité au total, c'est 22% de notre énergie consommée, donc pas de confusion. Alors sur ce parc de 58 réacteurs, ce sont tous des réacteurs avec la licence américaine. Tous les réacteurs de licence française ont fermé. Et à l'heure actuelle, on a 23 réacteurs aujourd'hui qui sont arrêtés, donc sur les 58. Par contre, il y en a deux qui sont arrêtés pour très longtemps, c'est Bugey 5, oui. Où il y a des problèmes d'étanchéité des cuves de l'enceinte de confinement. Et puis Paluel, où on a eu, il y a quelques mois, un générateur de vapeur de 400 tonnes, de 17 mètres de haut, qui était en cours de changement. Il n'y aurait jamais dû avoir d'accident là-dessus, et ce générateur de vapeur est tombé, donc 400 tonnes qui tombent sur la piscine de stockage des combustibles ou neufs ou usés, qui sont très dangereux. Donc cette centrale, à notre avis, elle ne reprendra jamais, elle ne remarchera jamais.
D'accord. Alors c'est donc 17%, hein, on a dit, hein,
tout à fait,
de l'électricité. Par rapport aux
17%
autres
pays, de l'énergie.
De l'énergie. De 17% l'énergie. De l'énergie et 73% d'électricité.
Tout à fait. Et
par rapport aux autres pays, on se situe comment en France?
Alors en France, le nucléaire, c'est le seul pays dans le monde où le nucléaire dépasse les 50% de la production d'électricité.
On est largement en tête.
Si on prend la moyenne dans le monde à l'heure actuelle, donc en 2016, le nucléaire représente 2% de l'énergie consommée dans le monde. 2%. et environ 17% de l'électricité consommée dans le monde. Sachant que, il ne faut pas l'oublier, une grande partie de la Terre au niveau surface, donc l'Afrique, est très peu équipée au niveau électrique. Donc quand on dit 17%, c'est 17% des pays où il y a un équipement électrique avec des réseaux importants. On ne parle pas de l'électricité locale faite par un panneau photovoltaïque qui alimente 3 ordinateurs. On parle bien des réseaux électriques.
Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que la France est leader ? Quelles ont été les options déterminantes qui ont fait que on détient le record du monde de l'utilisation de l'énergie nucléaire?
Les raisons principales, c'est que le général de Gaulle a voulu la bombe atomique, la bombe A notamment, puisqu'à son époque c'est la bombe A qu'on parlait, donc la bombe à fission d'uranium, et que pour construire cette bombe, il fallait des réacteurs de la série uranium naturel graphique gaz, et qu'on a monté un certain nombre de réacteurs en France. Et puis, suite à cela, en 1973, lors du premier choc pétrolier, Georges Pompidou était encore président de la République, il commençait à prendre de l'âge, et sa santé était déjà en mauvais état, et le ministre de l'époque... j'ai pas son nom, mais c'est pas grave, a vraiment décidé avec le CEA, le Centre de l'énergie atomique, de dire on va remplacer toute l'utilisation du pétrole pour l'électricité par du nucléaire.
Alors deux choses, voilà.
Voilà, c'est deux éléments principaux, c'est cette crise pétrolière qui a fait augmenter les prix du pétrole, et Pierre Messmer, voilà, qui était président, qui était ministre à l'époque, qui était déjà un pro de l'arme nucléaire, parce qu'il avait été en Algérie dans les années 60, toujours en tant que membre du gouvernement de Pompidou, qui était à l'époque Premier ministre, a voulu mettre en route et a été émerveillé par ce que lui proposait le CEA. On lui a dit... ça sera l'indépendance complète au niveau de l'énergie. On va produire beaucoup plus d'énergie que ce qu'on a besoin. Pour en exporter, on sera vraiment les dieux de l'énergie. Il n'y aura aucun problème. Et voilà, c'est parti comme ça.
D'accord, d'accord. Alors, l'argument de l'indépendance par rapport au pétrole, l'indépendance énergétique de la France, c'est un argument qui tient ou qui tient plus ?
Dès le départ, on nous a dit on est indépendant énergétiquement, puisque... on a nos centrales en France, on fait marcher nos centrales en France, sur le territoire français. La production d'énergie se fait sur le territoire français et alimente tout un réseau électrique qui a été déjà développé à l'époque, qui permet à chaque Français de bénéficier de cette électricité. À l'époque, en 1973, on avait encore un certain nombre de mines d'uranium en France. On en avait déjà dans d'autres pays. Mais par contre, il faut rappeler qu'en 2000... plus aucune mine d'uranium n'est exploitée en France. L'uranium consommé en France est à 100% importé.
Donc on n'a pas notre indépendance.
Donc il n'y a pas d'indépendance énergétique. Alors on nous a dit que pour continuer cette indépendance énergétique, on ferait au centre de la Hague, en Normandie, la production de MOX, c'est-à-dire un multi-oxyde contenant de l'uranium enrichi, et du plutonium venant du retraitement des déchets des autres centrales. Le MOX concerne 17 à 18 réacteurs en France sur 58 réacteurs, c'est donc une petite partie, et le MOX en tant que combustible coûte beaucoup plus cher en travail et est beaucoup plus dangereux à manipuler que l'uranium enrichi. Alors je rappelle juste techniquement que l'uranium, c'est à l'état naturel, c'est 99,3% d'uranium-238 et 0,7% d'uranium-235, et que pour faire marcher nos réacteurs, il faut monter le taux d'uranium-235 à 3,5%. Donc il y a une grosse partie de cet uranium appauvri, ça qui contient presque plus de l'uranium-235, qui est à stocker et qui émet des éléments radioactifs, qui est toujours présent en tant que déchet.
Ça, ce sont les déchets.
Mais on ne dit pas que ce sont des déchets, ça. L'uranium naturel issu du retraitement et de l'enrichissement, on nous dit que c'est un potentiel énergétique futur. Donc, on a toujours un discours en disant nos déchets vont peut-être servir dans le futur si on sait extraire de l'uranium
dans ce qui
naturel,
reste.
De ce qui reste, le tout petit peu qui reste en tant que combustible. Donc il y a vraiment une hypocrisie dans les termes qui est importante à comprendre. D'accord. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de déchets en France.
Ok, ok. Bon, alors, une part importante, l'expérience atomique, le choc pétrolier et l'indépendance énergétique dans un premier temps au moins. Bon, ça on comprend. Alors, quels sont... pour essayer d'avoir un panorama complet, peut-être quand même les avantages et on parlera après des inconvénients de cette énergie.
Alors,
est-ce qu'il y a des avantages ?
Quand on nous présente l'énergie nucléaire, moi je sais que quand j'étais à l'école primaire, on nous parlait de Chinon et de Marcoule, ouais. Et on nous disait, on a inventé une technique qui demande très peu de combustible et qui nous permet d'avoir beaucoup d'énergie. Or, quand on regarde la réalité des choses, à l'heure actuelle, on vous dira que l'énergie nucléaire... Alors, au niveau avantage, je pense que c'est une illusion. Je ne vois pas d'avantage à avoir du nucléaire, moi. Voilà. Mais c'est, si je milite contre, c'est parce que depuis 1974, depuis que les premiers exposés de... où je me suis intéressé à ce problème du nucléaire, je suis convaincu que ça n'a aucun avantage.
Aucun.
Par contre, on nous dit que c'est une énergie qui n'émet pas de CO2. Alors, quand on nous dit ça, c'est aussi une restriction de la définition du CO2. C'est-à-dire qu'au moment de la fission de l'atome
nucléaire.
Du radium-235, lorsqu'il éclate,
là, y a pas.
Il n'émet pas de CO2. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que pour avoir de l'uranium-235, on a environ, en France, de 1200 tonnes de minerais, de combustible pour mettre dans le réacteur, 25 tonnes par an. 1200 tonnes par an, oui.
Oui.
25 tonnes par réacteur par an, à peu près.
Voilà.
Donc 1200 tonnes de combustible par an, qui contient le combustible d'uranium-235 à 3,5%. On oublie de nous dire que pour récolter cette masse de 1200, il nous faut 12 000 tonnes de minerais.
12 000
et
tonnes.
Pour avoir ces 12 000 tonnes de minerais, il nous faut des millions de tonnes de... il nous faut 12 000 tonnes d'uranium, excusez-moi.
12 000
tonnes d'uranium. Et il nous faut des centaines de milliers de tonnes de minerais.
De minerais.
C'est-à-dire que si on prend l'exemple du Niger, par exemple, le Niger, qui est une ancienne colonie française, donc ça va très bien, qui est un pays pauvre, c'est un pays qui nous permet d'avoir presque 30% de notre combustible nucléaire. Et pourtant, dans ce pays, la plupart des gens, 90% des gens, n'ont pas l'électricité. C'est-à-dire qu'ils nous fournissent un combustible pour notre électricité, et eux n'ont pas l'électricité. Ouais, il y a un problème.
Ouais.
En plus, pour extraire ces 3000 tonnes de combustible venant du Niger, enfin, d'uranium venant du Niger, parce qu'après on fait le combustible avec, on l'enrichit, il faut des centaines de milliers de tonnes d'acide sulfurique, des explosifs, et surtout il nous faut 13 millions de mètres cubes d'eau par an. Or, si vous savez bien, les mines d'arlite et d'Akokène au Niger sont dans des zones semi-désertiques, où ce sont des villes de 80 000 habitants, mais qui ont été construites parce qu'il y avait les mines d'uranium. Il y a des nappes phréatiques qui sont dites fossiles, c'est-à-dire c'est des nappes phréatiques qui mettent des milliers d'années à se réapprovisionner. Il pleut très rarement, et lorsqu'on prend 13 millions de mètres cubes d'eau par an pour laver les minerais, ou les bâtiments qui servent à enrichir l'uranium, à extraire l'uranium, on pompe sur ces nappes phréatiques, on les assèche. On rejette bien sûr cette eau après dans le sable et tout ça, mais cette eau va être contaminée. Et la situation dans ces pays est déplorable, en dehors de toute norme de respect commercial des filiales de la COGEMA. Alors la COGEMA, je rappelle que c'est il y avait Framatome, construction des centrales, et COGEMA minerai, qui sont réunis à Areva en 2001, pour un peu oublier les anciens noms, mais la COGEMA, qui exploite ces minerais avec des filiales là-bas, est en dehors de toute norme de respect de la population. C'est-à-dire qu'on fait des routes en remblayant les routes avec des déchets venant des mines d'uranium, on construit du bâtiment en faisant du ciment avec, enfin, des pierres, enfin, du sable avec des éléments qui viennent des mines d'uranium. On a sur les stériles, on a 60 hectares stériles sur 30 mètres d'eau. C'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire, c'est la partie...
Les stériles, c'est quoi ?
C'est comme dans le charbon, il y a des stériles. C'est-à-dire, c'est la partie du minerai qui ne contient pas d'uranium.
Et c'est radioactif,
mais il en contient toujours un peu.
Un peu.
Parce qu'on extrait de ce minerai l'uranium, je disais avec les proportions qu'on avait tout à l'heure.
Oui.
Sauf que il y a 14 descendants à l'uranium, dont l'un des descendants a une demi-durée de vie de 250 000 ans. Donc en fait, on a sur les 14 descendants, on en a pratiquement toujours 12 dans ces minerais. Et ces descendants sont des éléments radioactifs. Et dans ces descendants, on a le radon, qui est un gaz lourd. Donc c'est un produit radioactif très lourd, qui est sous forme de gaz, et donc qui coule sur les stériles, et avec le vent, ça va dans les villes à côté, ça va contaminer les eaux, ça va, il y en a partout, quoi. Donc on a des stériles, je vous dis, 60 hectares sur 25 à 30 mètres d'eau.
Il n'y a pas de CO2, mais c'est pire, quoi.
Il n'y a pas de CO2, mais c'est pire.
Ouais.
Et c'est pas chez nous. Donc, fait la France pour réagir là-dessus? Eh bien, rien. Il y a eu des grosses actions de la CRIRA, de la Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, qui a son siège à Valence, qui est une association qui n'est pas anti-nucléaire. C'est un bureau d'études qui a été fondé en 1986 suite à l'accident de Tchernobyl. Et qui contient un bureau d'analyse avec un ingénieur nucléaire, enfin en physique nucléaire, et qui fait des analyses, qui a fait une analyse en 2003 au Niger, qui a pas pu amener de matériel de mesure, ils ont juste pu amener un compteur GGR, mais ils ont constaté à cette époque-là un taux de radioactivité dans les villages qui était énorme. Pourquoi ? Parce que lorsque la ferraille des machines qui servent à extraire le minerai s'use, une machine s'use, quand elle est foutue, on la met en stock, et les gens qui sont pauvres viennent récupérer les métaux de cette machine qui sont irradiés pour les recouler, faire la fusion du fer et se faire
des outils,
des casseroles. Et donc ces gens-là sont dans la contamination constamment. Et il n'y a pas eu de précaution là-dessus pour isoler ces déchets venant des mines et qui sont irradiés, c'est-à-dire qui sont activés. Ça, c'est des éléments métalliques au début qui ne sont pas radioactifs, mais qui, sous l'impulsion de la radioactivité, deviennent peu à peu radioactifs. Et donc, il y a vraiment une situation au Niger qui est déplorable.
Est-ce qu'on peut dire un mot de l'incidence de la radioactivité sur l'homme ? Un mot.
Alors,
juste pour le rappeler.
Oui, donc je rappellerai qu'il y a trois rayonnements principaux qui sont issus des minerais d'uranium, et des descendants, et puis des combustibles usés et des éléments radioactifs produits par les combustibles usés. C'est le rayonnement alpha, qui est extrêmement ionisant. Par contre, c'est un rayonnement, au bout de quelques dizaines de centimètres dans l'air, ou à travers une feuille de papier un peu épaisse, on arrête ce rayonnement A. Par contre, si on l'inhale par respiration ou qu'on le mange parce qu'on mange des aliments qui sont contaminés, là, il y a une destruction extrêmement importante, une ionisation des cellules, et un seul noyau d'uranium va ioniser plusieurs centaines d'atomes autour d'elle. Donc ça veut dire que ça perturbe l'équilibre chimique des organes, et si ça touche les éléments moteurs des cellules, donc le cœur des cellules que notre corps contient, ça provoque très vite des cancers et des... un cancer, leucémie et autres problèmes cardiovasculaires et autres. Alors, on a ensuite le rayonnement bêta, qui est un rayonnement, c'est un électron qui est plus léger, qui se propage de quelques dizaines de mètres dans l'air et qui traverse quelques feuilles de papier. Pareil, si on l'inhale ou si on l'avale, c'est très dangereux. Puis il y a un autre élément, un rayonnement gamma, qui lui est beaucoup plus dangereux, parce qu'il peut traverser, un rayonnement gamma peut traverser une tôle, une masse de plomb de 10 cm d'épais. C'est-à-dire que quand on rapatrie dans des trains ou sur des camions des déchets nucléaires qui contiennent notamment du césium-137, qui est un élément, un porteur gamma très fort, et bien si vous restez accoudé à cette citerne qui est bien isolée normalement pendant quelques heures, vous avez votre dose annuelle de radioactivité. Donc là, on a vraiment une radioactivité qui est extrêmement importante. Pour mesurer la radioactivité, on a deux unités. On a le becquerel, c'est le nombre, c'est une décomposition par seconde dans la masse qu'on a, Et puis on a surtout le sievers, le millisievers, qui est une norme qui a été extrapolée par rapport à l'énergie produite par la radioactivité et qui est classée selon la nature du bien émettant la radioactivité. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, l'OMS, l'Organisation Mondiale de Santé, estime que 1 millisievers, c'est le maximum que peut accepter un corps humain par an pour garder sa santé correcte. Un millisievers. Alors je reviendrai dessus tout à l'heure parce que si on parle du Japon, mais c'est important de se rappeler, c'est une unité. 1 millisievers, c'est la dose actuelle admise légalement en France.
D'accord, d'accord. Et au Niger, les contrôles qui ont été faits se situent à...
Alors, les contrôles qui ont été au Niger, on n'a pas de mesure précise là-dessus, parce que la CRIRA n'a pas pu rentrer avec des éléments importants. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que l'appel qui a été fait par des associations nigériennes auprès de la CRIRA a été fait suite au développement de leucémie, notamment, parce que la leucémie se provoque beaucoup plus rapidement que le cancer, donc ils l'ont constaté plus rapidement. rapidement, c'est une sorte de cancer du sang. Hein.
Oui, c'est ça.
Donc, et devant la croissance du nombre de leucémies, ils ont fait appel à la CRIRAD, qui existait déjà, et ils se sont rendus compte que c'était la radioactivité, et la radioactivité présente des fois dans les murs des maisons, dans les murs des hôpitaux, sur les routes d'accès aux hôpitaux, et puis surtout auprès des stériles, avec les vents du désert, qui projettent des fois les déchets à des centaines de kilomètres. Donc on est vraiment dans une situation où il y a un danger réel au niveau de la santé.
Bon, alors on a essayé de trouver des avantages. Il vaut mieux parler à ce moment-là des inconvénients.
Hein. Alors, si on peut reprendre les inconvénients, ouais. On va prendre juste une mesure. Tchernobyl, c'était le 26 avril 1986. L'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a soutenu jusqu'en 2009 qu'il y avait 59 morts du fait de Tchernobyl et 4000 cancers potentiels. L'Académie des sciences de New York, donc c'est quand même un organisme indépendant, regroupant des centaines ou peut-être des milliers de scientifiques, ont fait une analyse sur les conséquences de Tchernobyl à partir des états civils, donc d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie. Parce qu'à l'époque, c'était déjà séparé en morceaux. Ils ont sorti un rapport en juin 2010, donc il y a 6 ans, qui estimait que pour seulement l'Ukraine, la Biélorussie qui est au nord de l'Ukraine, et la Russie qui est au nord-est de l'Ukraine, donc Tchernobyl c'est au nord de l'Ukraine, il y avait entre 600 000 et 900 000 morts répertoriés dans l'état civil, parce qu'ils n'ont pas accès, notamment en Biélorussie, c'est encore une dictature, ils n'avaient pas accès aux données. Donc, sans parler de la Pologne, qui a reçu toutes les... La Pologne, la Suède, la Finlande, l'Allemagne, l'Autriche, et puis la France, qui ont ramassé les nuages, qui ont survolé toute l'Europe, on est à entre 600 000 et 900 000 morts. Mm-hmm. Sur les 800 000 liquidateurs qui sont intervenus sur la centrale dans les quelques mois qui ont suivi, notamment des ouvriers, des mineurs qui ont été creusés des souterrains sous la centrale pour essayer de couler du béton, tous les gens qui sont intervenus près de la centrale, ils ont estimé qu'en juin 2010, 125 000 de ces personnes étaient morts. Enfin, c'était constaté en état civil, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, des gens sont intervenus sur la centrale et la plupart ont été brûlés très vite, ouais. Mais d'autres ont vécu encore 10-15 ans. Et quand on dit qu'on mort du nucléaire, c'est pas je suis vivant aujourd'hui, je vais faire mes cours, je me balade et je suis mort demain. C'est pas ça, c'est peu à peu les organes se désintègrent, la peau se fissure, on peut plus toucher. Il y a un certain nombre de malades. À la fin, plus personne ne pouvait les toucher. La peau se déchirait, quoi. Il y avait une décomposition de la structure moléculaire de la peau qui fait que ces gens étaient encore vivants parce que le cœur avait moins ramassé, mais étaient dans des souffrances extrêmes, quoi. On est vraiment dans une situation où c'est pas comme un accident de voiture, enfin, ou un accident d'avion où les gens sont morts tout de suite, quoi. On est vraiment dans une situation extrêmement préoccupante.
Est-ce qu'il y a eu des accidents en France?
Alors, si on prend l'historique des gros accidents, c'est Flemas Island en 1979 aux États-Unis, c'est le 26 avril 1986 à Tchernobyl, c'est le 25 juillet 2006 à Fukushima. Forkmark en Suède.
Ah,
alors c'est un accident dont on parle, peu,
pas.
Mais c'est important de le savoir, c'est qu'il y a eu un court-circuit à l'extérieur de la centrale, et ce court-circuit a grillé tous les électrogénérateurs et à couper l'électricité dans la centrale. Normalement, quand une centrale nucléaire, on coupe le courant, tout de suite, il y a des moteurs diesel qui démarrent pour faire marcher des électrogénérateurs, et il y a du courant pour contrôler, pour voir où c'en est. Les barres de contrôle descendent, mais enfin, quand vous avez un réacteur de 900 MW, c'est pas comme une cocotte minute, quoi. C'est une cocotte minute, mais il y en a à 3 millions, quoi. Donc, faut l'arrêter, quoi. Faut dégager l'énergie, faut que les pompes marchent pour qu'on envoie vers la turbine la chaleur, enfin, les liquides caloporteurs comme l'eau bouillante pour refroidir. Et là, il a fallu 19 minutes pour mettre en route le premier moteur diesel. Pourquoi? Parce que dans la conception du réacteur, ce court-circuit a grillé tous les démarreurs des moteurs diesel. Donc il a fallu 19 minutes pour arriver à démarrer un moteur diesel à la manivelle, donc c'est pas de l'appart parce que c'est des gros électrogénérateurs, pour qu'on puisse alimenter Et quand, alors le réacteur a fondu, mais ça on ne le dit pas parce qu'il n'y a pas eu, de victime réelle, il n'y a pas eu d'explosion. Donc, mais j'aime bien
citer quand même, parce que le réacteur a fondu.
Le réacteur a fondu. Et puis ensuite il y a eu Fukushima, oui. Où là c'est 4 réacteurs qui ont explosé. Quoi. C'est pas, on n'est plus du tout dans les normes, c'est-à-dire que, et c'est pas à cause du tsunami, c'est parce que s'il n'y avait pas eu les réacteurs, ils n'auraient pas explosé. Quoi. Voilà. Ça c'est cumulé au tsunami. Et là, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais là, on pense que dans 10 ans, il y aura 1,5 million de morts. Parce que,
1,5 million de morts.
Parce qu'au Japon, les premières réactions du gouvernement japonais, puisqu'on est dessus, c'était on passe les doses admissibles, comme les gens étaient, les zones contaminées étaient très, très grandes, pour réduire ces zones contaminées, on n'a pas nettoyé, on a simplement passé la zone acceptable de radioactivité par une personne de 1 millisievers à 20 millisievers.
Voilà.
Voilà, donc comme ça, y a toute une zone qui n'était plus, entre guillemets, légalement contaminée. Donc on a une situation où les gens qui habitent à Fukushima, qui est une ville qui est à 60 km du site nucléaire, enfin du site de la centrale, ben y a une contamination extrêmement importante. Et dans les premiers jours qui ont suivi l'explosion, on a laissé les enfants aller à l'école, on a laissé les enfants faire de la balançoire, du toboggan dans le sable, et il a été constaté au mois de mai, donc quelques mois plus tard, quand la CRIRAD a pu aller au Japon, avec du matériel là par contre, que tous les creux dans le relief où l'eau avait pu se déposer étaient contaminés, notamment en césium-137, qui est un émetteur gamma fort. Et on pense que les gamins ont ramassé. Puis il y avait l'iode-131 au début. Donc dans les 9 premiers mois, vous avez l'iode-131 qui est extrêmement radioactif, qui au bout d'un an, il n'y en a pratiquement plus, mais qui a balancé des doses sur les enfants de ce lieu, puis les parents, qui étaient monstrueuses. La CRIRAD a donné les conseils, quand vous êtes chez vous, donc dans vos lieux d'habitation, fermez toutes les fenêtres, et quand vous dormez, mettez-vous le plus loin possible des murs, parce que les rayonnements gamma émus par césium-137, qui parfois s'est posé sur la margelle de la fenêtre, émet et traverse les vitres, traverse les murs. Donc mettez-vous le plus loin possible de tous les murs. On a vraiment une situation qui est déplorable. On a encore, à l'heure actuelle, 160 000 personnes qui sont déplacées dans des bungalows, dans des gymnases, dans des lieux qui font penser à des semi-bidonvilles. Quoi. Donc on a vraiment une situation qui est déplorable, et pourtant le Japon a un premier ministre qui est pro-nucléaire. Là, on ne comprend pas. Ils ont reçu les bombes en 44, ils ont eu des explosions en 2011, et ils pensent que c'est quand même une bonne solution. Là, je ne comprends pas comment on peut arriver à penser cela.
Alors, dans les inconvénients, il y a aussi les déchets. Hein. On a vu au Niger ce qui provient de l'extraction. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est évoquer aussi ce qui provient de l'utilisation.
Tout à fait. Alors c'est important de voir que les déchets nucléaires, quand on parle de CO2, juste déjà en parlant de CO2, c'est qu'il faut des camions, des pelleteuses pour faire marcher les mines d'uranium. Il faut ensuite des bateaux pour amener l'uranium enrichi en France. Ensuite, il faut la traiter en 5 ou 6 phases, avec toujours en servant du pétrole comme source d'énergie. Ensuite, il faut construire la centrale nucléaire. Il y a du béton, il y a de l'acier, il y a des millions de tonnes. Il faut aussi du pétrole. Ensuite, quand on traite le combustible, il faut le charrier, parce qu'en France, on a l'usine de la Hague qui est en Normandie. Et puis ensuite, on envoie les déchets à Marcoule qui est en Provence. Donc ça fait des kilomètres. Donc en fait, là, on restera sur la consommation de CO2. On estime qu'il y a environ 90 grammes de CO2 par kilowattheure. Produite par énergie nucléaire, c'est pas 0,90 grammes. Alors, juste pour se remettre en rapport, pour une turbine fonctionnement avec un réacteur à gaz de bonne qualité, c'est plutôt aux alentours de 250 grammes. D'accord. Et quand on se sert pour chauffer pour faire marcher les turbines de pétrole, on est plutôt aux alentours de 380 grammes. Donc c'est moins, je suis d'accord, mais ce n'est pas rien. Alors ensuite, l'extraction, on a parlé du Niger, je vais juste rappeler aussi qu'en France, parce qu'à l'heure actuelle, au début octobre, il y a eu une analyse faite dans le département de la Loire, notamment dans la commune de Saint-Priest, La Prugne,
où il y avait des mines,
et Areva avait assuré qu'il nettoierait les sites miniers de Saint-Priest-la-Prugne. Il y a eu un rapport le 4 octobre où la CRIRAD était présente, puisque c'était elle qui avait donné un certain nombre de normes qu'elle exigeait pour pouvoir épurer la zone et dire qu'elle n'est plus contaminée. Et avant cette réunion, ils ont été faire des tests, et d'autres laboratoires ont été faire des tests, et on a encore des doses de radioactivité plus de 10 fois supérieures aux doses admissibles pour la santé dans les éléments, dans les sites qui ont été nettoyés par Areva. Donc on se dit, même en France, on a des zones contaminées autour des anciennes mines, puisqu'il y avait près de 600 mines en France, mines d'uranium, des petites mines. Mais par exemple, je rappellerai la situation de Limoges, dont Limousin, il y a eu beaucoup de mines. Limoges, il y a une mine d'uranium à ciel ouvert qui a été exploitée. On a donc creusé un gros trou dans la montagne. Et ce trou, quand on a arrêté d'exploiter la mine, eh bien, il s'est rempli d'eau. Ça fait un lac. Et puis après, le lac, il coule. Une fois qu'il déborde l'endroit le plus bas où la terre est, ben, ça fait un ruisseau. Et ce ruisseau coulait dans l'immense zone aquifère où Limoges récupère son eau pour l'eau consommée au robinet à Limoges. Et là, il y a eu des dénonciations, notamment en 2009, de la CRIRAD. Areva à nettoyer les bords de ces lacs. Simplement, ils ont enlevé les éléments radioactifs. Ils ont à la pelleteuse. Hein, ils ont été balancés dans un ravin ailleurs. Et c'est une chose, mais ils n'ont pas détourné le ruisseau qui vient de la mine. Donc le ruisseau amène toujours de l'uranium. À mesure qu'il pleut, à mesure que le ruisseau déborde, enfin que le lac déborde, et ben l'eau recoule sur Limoges. Donc on se dit, il y a vraiment une inconscience, c'est-à-dire que la radioactivité, c'est dangereux. Quand je disais que Tchernobyl, on a entre 600 000 et 900 000 morts en juin 2010, c'est-à-dire qu'il y a 6 ans, que maintenant il y a sûrement 200-300 000 morts en plus, je ne l'ai pas dit, mais aussi au nord de Kiev, près de Prépiat, dans les zones encore habitées, donc suffisamment loin de l'ancienne centrale de Tchernobyl, dans les jeunes personnes de 18 ans, 80% de ces jeunes personnes souffrent au moins d'une pathologie grave. 80% au moins des problèmes cardiovasculaires, des problèmes neurologiques, des problèmes rénaux, du fait de la radioactivité, alors que ces jeunes sont nés plus de 10 ans après l'accident. Donc on voit vraiment qu'il y a une réalité des choses, mais malheureusement, la Russie essaye de planquer cette chose. L'Ukraine est quand même pas un pays très riche, bon, en plus il y a des conflits avec la Russie. La Biélorussie, c'est toujours la dernière dictature d'Europe. Donc on a une situation où la population, notamment les jeunes, ont une mauvaise santé dès le départ. Dès qu'ils naissent, ils ont des problèmes. Et le problème, c'est que cette dégénération des cellules et de la reproduction va durer pendant certainement des centaines d'années, quoi.
Bon, Patrick, on construit une centrale.
Oui.
Il n'y a pas d'accident.
Mm-hmm.
Ça se passe bien. Il est où l'inconvénient ?
Alors l'inconvénient, c'est après ce qu'on n'a pas trop pensé au départ, c'est une fois que les combustibles sont usés, que va-t-on en faire ?
Voilà.
Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont stockés à La Hague, mais La Hague est pratiquement saturée, donc il faudra trouver un lieu pour stocker ces éléments.
Avant La Hague, on faisait quoi ?
Ah ben non, mais La Hague existait pratiquement dès le départ.
Dès le début.
Dès le départ, d'accord. On nous a dit...
On n'a pas immergé des...
Ah si, si, alors si, c'est une remarque intéressante, c'est qu'au départ, on balançait dans la mer des
voilà.
Fûts dans la Manche. Il y a des zones profondes qui sont à 4000 mètres de profondeur.
4000 mètres.
Et on balançait là-dedans. Sauf qu'on a oublié une chose, c'est que les fûts métalliques, dans de l'eau salée de la mer, ils vont rouiller et puis ils vont se percer. Quoi.
Voilà.
Donc là, on a vraiment une situation qui est déplorable.
Il y en a beaucoup.
Alors, on a jusque pratiquement la fin des années 70, c'était balancé dans la mer. Hein. Enfin, 75, quoi.
Bon.
Donc, on a vraiment une situation qu'il faudra... Mais le nucléaire en France...
Mètres, on peut pas aller le chercher.
Le nucléaire en France, à l'époque, était quand même beaucoup moins volumineux,
oui.
On est bien d'accord.
Oui, oui.
Mais c'est quand même très dangereux, parce que cette radioactivité qui est au fond de l'eau va se contaminer, va se déplacer dans les océans, quoi.
Alors, maintenant, La Hague.
Alors La Hague, donc on centre...
Tous les déchets de toutes les centrales...
De combustibles.
De combustibles vont
ils sont
à La Hague.
Ils sont stockés quelques années près de la centrale dans une piscine.
D'abord.
Et ensuite ils sont envoyés à La Hague.
D'accord.
Alors après, donc en 91, la loi Bataille, donc le député Bataille, a dit qu'il faut qu'on trouve une solution. Donc trois éléments étaient proposés.
Oui.
Soit transmutation, c'est-à-dire construire un réacteur qui absorbe les déchets. Bon, ça c'est bien quand on a 10 grammes de déchets, ça va bien. Mais après, c'est pas industriellement possible. Enfin, ça n'a jamais été. Stockage en surface ou subsurface, c'est-à-dire dans des lieux que l'on peut contrôler constamment, qui sont à moins de quelques mètres de profondeur, avec des étanchéités. Bon, vers la Hague, on a un centre d'entreposage de déchets. En fait, on se rend compte que les plastiques qui étaient tout et tout ça, ça perce peu à peu, et les nappes phréatiques sont contaminées, quoi. Donc on voit bien. Et troisième solution, le stockage en profondeur. Donc, il était prévu de faire une analyse en Bretagne et dans la Meuse. Bon, il se trouve que les Bretons, à l'époque, n'étaient pas très d'accord dans les zones granitiques, et qu'en fait, la Meuse, dans le village de Bure, qui est un village où il y a 100 habitants, en leur faisant quelques trottoirs dans la ville et puis qu'il y a une maison des jeunes et tout ça, c'est très bien passé. Enfin, c'est très bien passé pour un certain nombre d'habitants. Donc, le projet CIGEO, donc de centre industriel de conditionnement géologique, est en construction à Bure. Et on veut stocker les déchets de combustible, donc les plus dangereux, contenant notamment du plutonium, qui est dangereux pendant 1 million d'années environ, en profondeur, dans une zone argileuse qui fait 120 mètres de hauteur, et qui normalement est très stable. On a déjà constaté qu'une zone argileuse de 120 mètres d'épaisseur à 400 mètres de profondeur est stable, mais que quand on amène des corps étrangers dedans, du métal, des éléments issus de l'échappement des moteurs diesel, des certains soufres, plus d'oxygène qu'il y en avait avant, eh ben, il peut y avoir des fissures dans ces zones argileuses. Et on a déjà eu, début 2016, un éboulement qui a fait un mort. Donc on se dit, vous voulez construire des zones, soi-disant, pour une éternité en profondeur, en nous garantissant une sécurité pour 100 000 ans, alors que l'on voit que déjà, avant qu'on mette du nucléaire, avant qu'on mette des déchets nucléaires, il y a déjà un éboulement et un mort. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est que nous, il y a déjà eu deux exemples dans le monde de stockage en profondeur. Il y a Asse, en Allemagne, c'était une mine de sel, stable depuis plusieurs centaines de milliers d'années, et les géologues garantissaient une stabilité pendant au minimum 100 000 ans. Donc, au bout de 100 000 ans, même le plutonium a déjà perdu une partie non négligeable de sa radioactivité. Ils ont donc enfoui 125 000 fûts radioactifs et puis 1300 fûts contenant du plutonium dans cette zone qui était sèche, tout sel sèche. Donc le sel à l'état sec n'est pas spécialement dangereux si c'est fait comme il faut. Sauf que, pareil, on a oublié que si on amenait des bulldozers, si on amenait, si on rechangeait les tunnels et tout ça, ben, peu à peu il y a des fissures, l'eau est arrivée. Et maintenant, les 126 000 fûts baignent dans de la saumure. La saumure, ça va vite pour rouiller le métal. Et maintenant, c'est un problème financier et technique énorme en Allemagne. On nous garantissait 75 000 ans de stabilité. Au bout de moins de 40 ans, c'est de la saumure. Au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, pareil, il y a un site de stockage en profondeur qui est exploité depuis une quarantaine d'années. Il y a eu en 2014 une explosion, une explosion sur un camion, et un fût a explosé, et plus personne ne peut descendre en bas, parce que c'est contaminé, et par les cheminées d'évacuation, on a eu une émission de radioactivité extrêmement importante. Mais surtout, plus personne ne peut y aller, et peut-être que ça va durer 20, 30, 40 ans, où on ne pourra plus y aller, quoi. Donc on voit très bien que quand on a un accident en profondeur, les moyens d'accès étant tellement compliqués, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Donc pour nous, Bure, c'est non. Alors il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont été faites techniques. Bon, l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets radioactifs, a dit bah, c'est super, ça va trop bien. Par contre, d'autres analyses, d'autres laboratoires d'analyse ont dit mais il y a trop de risques géologiques. Il y a aussi une commission éthique qui a été faite par un certain nombre de personnes, notamment par l'évêque de Troyes, entre autres, parce que je dis, c'est intéressant de voir que si une personne à conviction religieuse était présente dans le lien, et cette commission a dit, éthiquement, ce n'est pas possible de réaliser un stockage en profondeur. Comment, dans 300 000 ans, si des gens creusent à cet endroit, comment leur signaler que cet endroit est dangereux? Cette zone, près de Bure, est une zone géologique pour exploiter la chaleur géologique, extrêmement intéressant. Donc, comment peut-on assurer, ou même que dans 50 000 ans, personne ne pensera aller creuser là-bas pour récupérer l'énergie géothermique? Comment peut-on pas... On ne sait pas comment... Dans 50 000 ans, on ne sait pas les langues qui seront utilisées. Les premières langues égyptiennes, ça a 10 000 ans, quoi. Donc, on a mis des années à les redécouvrir. Comment peut-on assurer que dans 50 000 ans, ou 100 000 ans, ou 300 000 ans, on n'aura pas quelqu'un qui va les creuser dedans? Comment peut-on assurer qu'il n'y aura pas des fuites, qu'il n'y aura pas des oxydations? Vous savez que quand il y a de la chaleur, quand il y a une chaleur importante... L'eau se décompose en hydrogène et oxygène. L'oxygène va oxyder tous les métaux. L'hydrogène s'infiltre de partout, remonte en surface. Bon, explose quand il y a une étincelle, mais ça, c'est pas trop le problème, là. Ça, c'est le problème dans les enceintes de confinement des réacteurs. Mais il peut y avoir une fuite d'hydrogène, parce que l'hydrogène va créer des fissures, puis après, c'est l'eau contaminée qui va prendre ces fissures. On est vraiment dans une situation où comment peut-on laisser au secret des zones si dangereuses pour les gens qui vont nous succéder. Parce qu'il faut quand même se rappeler que les combustibles usés sont des centaines de fois plus radioactifs que le combustible neuf. Parce qu'il y a tous les résultats de la fission, le césium-137, l'iode-131, enfin, un certain nombre d'éléments qui sont très radioactifs.
Il n'était pas avant.
Et puis le plutonium. Alors, le césium, au bout de 1000 ans, c'est bon. L'iode-131, au bout d'un an, c'est bon. Mais le plutonium, qui est le plus dangereux des corps jamais connus sur Terre, qui n'existe pas à l'état naturel, puisque sa demi-durée de vie est de 25 000 ans, mais qu'il faut environ une trentaine de fois 25 000 ans pour qu'elle soit plus dangereuse, ben ça veut dire que c'est presque un million d'années, et ben ça veut dire comment peut-on garantir à des gens qui vont creuser à cet endroit dans même 100 000 ans, qu'ils vont pas trouver un truc super dangereux, ils vont même pas savoir ce que c'est, ça se trouve, enfin je sais pas, on peut pas imaginer si les cultures vont rester, si la culture, la physique, tout ça sera toujours connu, c'est vraiment scandaleux, quoi.
Alors, ces centrales qui sont arrêtées aujourd'hui, elles sont arrêtées pourquoi ?
Alors, pour maintenance, pour différents mini-accidents, pour, je le disais pas à l'UL, pour un générateur de vapeur qui est tombé, pour Buget, des fuites au niveau de l'enceinte de confinement. Alors, on n'a pas trop de temps. Ouais, donc ce qu'on peut dire, c'est que ces centrales, on les a construites. Au moment où on les a construites, on n'a pas pensé comment il fallait les démanteler. Alors, il y a l'exemple de Brennilis en Bretagne, qui est une toute petite centrale de 70 MW, qui ça fait 20 ans qu'elle est arrêtée, et la dernière phase de démolition n'est pas possible, parce que les murs sont complètement contaminés. Par contre, les autres centrales, notamment les centrales à graphite gaz, on prévoit de les démonter assez rapidement, et de stocker les déchets activés, c'est-à-dire les déchets, les bétons, les aciers qui ont été activés par la radioactivité, à côté du Buget, donc près de chez nous, près de Lyon, ouais. À Iceda, donc qui est installation de confinement et d'entreposage de déchets activés, où on veut mettre à côté des quatre réacteurs un autre centre de stockage de déchets radioactifs qui sera prévu pour garder pendant 50 ans les déchets issus du démantèlement des centrales. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est que ces déchets vont être dangereux pendant environ 350 à 400 ans, donc c'est une durée courte au niveau du nucléaire, mais au niveau du mas, c'est long. Donc on fait un centre d'entreposage conçu pour durer 50 ans et pour mettre dedans des produits dangereux pendant 350 ans. Là, il y a un truc qui m'échappe, quoi. Comment nos descendants, dans 50 ans, vont faire pour reconditionner ces éléments? Alors, voilà, c'est donc le nucléaire, bon, le temps passe vite, mais il y a énormément de problèmes.
Qu'est-ce qu'on va laisser,
c'est ça,
et à nos petits enfants. Patrick, il faut qu'on évoque les solutions alternatives, parce que le temps passe.
Les solutions alternatives, tout ça,
mais on est obligé d'avancer.
Excusez-moi.
Non, mais.
En 2003, l'association Négawatt, qui existait depuis 3-4 ans, Négawatt comme négatif du watt, hein, c'est pas mégawatt, hein, c'est négawatt, a conçu un plan en 26 résolutions basé sur la sobriété, c'est-à-dire ne pas gaspiller. C'est pas du tout vivre dans la pauvreté. C'est moi, j'ai besoin d'avoir chaud. La première chose que je fais en hiver, c'est que je mets des pulls déjà. Ça consomme pas beaucoup d'énergie. J'ai besoin de me déplacer de tel endroit à tel endroit. Si ça fait 500 mètres, je suis peut-être pas obligé de prendre ma voiture, je peux peut-être y aller à pied. Voilà, c'est ça la sobriété. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire travailler toujours avec les moyens énergétiques les plus rentables, et puis ensuite les énergies renouvelables. Alors quand on parle d'énergie renouvelable, en septembre 2011, avant les élections présidentielles, donc quelques mois avant, Négawatt a sorti un nouveau rapport, beaucoup plus volumineux, beaucoup plus travaillé, qui expliquait que en 2045-2050, on pourrait être du 100% renouvelable en France. Et que vers les années 2035, on n'aura plus de réacteurs nucléaires. Ça demande par contre une décision politique. Dans le même temps, un certain nombre de personnes se sont réunies à Villeurbanne, à Espul, pour créer Enercoop, donc une coopérative de distribution d'électricité 100% renouvelable, qui a été créée un an après la libéralisation de l'électricité et deux ans avant la libéralisation auprès des particuliers. Et donc au 1er juillet 2007, lorsque l'électricité est devenue libérale au niveau des particuliers, c'est-à-dire que EDF n'était plus le producteur à monopole, voilà. EDF s'est scindé en trois morceaux. Il y a eu EDF le commercial à côté d'Enercoop, à côté des autres producteurs, GDF Suez et tout ça. Et puis il y a eu RTE, le réseau de transport d'électricité haute tension, qui a été une filiale, mais séparée, service public, et ERDF, qui a changé de nom maintenant, qui est devenu le service public de distribution d'électricité basse tension. EDF commercial est resté commercial, normalement au même point de vue que les autres. Et Enercoop s'est dit, faut vraiment qu'on développe ça. C'était la volonté de spécialistes d'énergie et d'ingénieurs. À l'heure actuelle, on est 26 000 clients chez Enercoop. C'est pas beaucoup, je sais, mais on n'a pas les moyens de faire de la pub de partout. Sur ces 26 000 clients, il y a environ 12 à 13 000 sociétaires, des gens qui participent aux décisions. On a, depuis 2010, créé des filiales régionales, c'est-à-dire que si vous êtes à Lyon, dans la région, vous allez être rattaché à Enercoop Rhône-Alpes, qui a son siège à Grenoble, et vous aurez de l'électricité qui vient à 100% renouvelable. Voilà, c'est possible.
On entend que, dans la distribution, on ne peut pas faire la différence. Alors, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Alors, en fait, on a un réseau régi par ERDF et RTE, voilà. Donc basse et moyenne tension et haute tension, et EDF, GDF Suez, Enercoop, Povreo envoient leur courant sur ce réseau. Voilà. Il y a un comité de régularisation qui dit que demi-heure par demi-heure, chacun des producteurs doit envoyer ce que consomment ses consommateurs. D'accord. C'est-à-dire que cette commission connaît la structure des clients d'Enercoop, sachant qu'il y a tant de couples avec un enfant, tant de couples avec des enfants, tout ça, et on fait une moyenne de la consommation demi-heure par demi-heure de ces personnes, et Enercoop doit envoyer sur le réseau ce que consomment ses consommateurs. Donc c'est le même réseau, mais chacun sait que quelqu'un qui est chez Enercoop sait que quand il consomme l'électricité, Enercoop envoie ce qu'il faut sur le réseau, voilà, pour qu'il consomme. Même si cette personne habite à côté du budget.
Oui, hein. Oui. Ouais,
ça marche quand même.
Très bien, très bien. Bon, alors Patrick, comment participer à tout ça ? Comment s'investir ? Comment vous contacter ? Comment vous rejoindre ?
Alors, il y a plusieurs éléments. Si vous voulez participer avec nous contre le nucléaire, bon, je peux vous donner mon adresse, c'est monet.patrick2@voinadou.fr, vous pouvez m'appeler, m'envoyer un mail et puis je vous répondrai. On fait une réunion tous les troisièmes mercredis de chaque mois à l'atelier, qui est un local qui est situé 9 rue Dumange, D-U-M-E-N-G-E, dans le 4e, près de la Croix-Rousse. Donc tous les 3e mercredi de chaque mois à 18h, on a une réunion. Voilà, et vous pouvez venir, vous êtes invité. Après, il y a aller sur Internet, regarder Enercoop Rhône-Alpes, voilà, et dire, ben voilà, je veux bien arriver chez vous, et voilà. Alors, on est bien d'accord que nous, on fait pas de concurrence sur le prix, on fait de la concurrence sur la qualité de production de notre énergie. On a un prix légèrement supérieur à EDF, pourquoi ? Parce que EDF a des subventions et ne vend pas son électricité au prix de production, mais à un prix défini par décret.
Très bien.
Mais par contre, je pense qu'en 2018, on va être au même niveau qu'eux, quoi. Voilà.
Parfait, parfait. Est-ce que vous avez des actions prévues là dans l'immédiat? Alors, et dont on peut dire un mot?
Non, on avait organisé une manifestation donc, voilà, près de Flamanville, oui, le 1er octobre. Ah. Et en parallèle à cette action, parce que Flamanville c'est un peu loin, on a fait une action sur Lyon. On a régulièrement des actions. Il y aura bien sûr aux alentours du 11 mars 2017 et du 26 avril 2017 des actions importantes contre le nucléaire, puisque ce sont les commémorations de Fukushima le 11 mars et de Tchernobyl le 26 avril, qui sont maintenant des dates malheureuses.
Merci Patrick pour toutes ces informations.